Merci Sabine. On va peut-être passer aux questions, aux remarques dans la salle, s'il y en a. Sinon, moi j'en ai plein. Voilà. Donc, dépêchez-vous.
Bonjour, je n'ai pas du tout tout compris et j'aurais vraiment besoin d'avoir des informations concrètes sur l'origine de la norme. Par exemple, vous parliez tout à l'heure de la pédiatre, enfin aux enseignements pédiatriques, de bien montrer aux enfants, de bien les différencier et qu'ils aient vraiment une identité propre à leur sexe. Et je voudrais savoir comment ça a été créé au niveau historique, par exemple. Enfin, qu'est-ce que ça a apporté concrètement? Mais je suis bien d'accord, mais comment c'est venu justement que le monde
Alors,
entier.
en fait, je ne sais pas comment c'est venu. Ce que je sais, c'est. Ben, c'est-à-dire, si on peut quand même répondre, si vous voulez. Là, c'est ce que, là, je pense que c'est quasiment même pas de la norme, c'est du standard. C'est-à-dire, la norme, on peut l'entendre comme un standard, les normes européennes de la fabrication du camembert, par exemple. Bon, ou de la fabrication des garçons et des filles. Bon. Ça, c'est des standards qui sont purement idéologiques, si vous voulez, qui sont vraiment, on ne sait pas quoi, des espèces d'opinions consensuelles. Voilà, c'est ce que j'appelais le consensus, mais qui n'a en quelque sorte ni queue ni tête. C'est-à-dire, si on le démonte un tout petit peu, on voit bien qu'on arrive à des absurdités. Par exemple, dans les questionnaires, si on pose à la jeune puéricultrice, là, si il fait, je ne sais pas moi, 0 degré, est-ce que vous habillez la petite fille en pantalon ou en jupe? Qu'est-ce qu'elle va répondre? Si elle a un peu de bon sens, elle va la mettre en pantalon. Si elle ne réfléchit pas et qu'elle applique au fond le standard, elle va dire, ah ben je la mets en jupe. Bon. Donc historiquement, je pense que bon, ça c'est juste des espèces de petits, comment dire, de petits épiphénomènes, bon, je pense qu'ils sont quand même assez aisés à critiquer. En même temps, c'est vrai que quand on voit ce qui nous est véhiculé, je sais pas moi, dans un certain nombre de téléfilms, de trucs comme ça, etc., on voit bien qu'il y a des choses comme ça qui circulent de façon très massive et qui sont vraiment des pures absurdités. Mais ça, c'est, je pense que voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'était juste que c'est des sortes de restes, parce que je pense que c'était pas du tout pareil il y a 100 ans qu'une femme se mette en pantalon et de lire ces stupidités-là dans ce genre de manuel. C'est affligeant de les lire, hein. Mais ces espèces de, oui, c'est une sorte on va dire de bêtises ambiantes, quoi, si vous voulez, qui peut circuler. Enfin, je sais pas, on en aurait à l'appel des exemples comme ça. Il suffit de prendre un magazine, je sais pas moi, un magazine quel qu'il soit sur la manière d'être, enfin sur, enfin je sais pas moi, tous les magazines sur comment séduire, comment faire ceci, comment faire cela. Bon, vous avez comment réussir à être soi-même, enfin tous ces trucs-là, vous avez des recettes de ce genre. Maintenant, quand je parle des normes, c'est en, enfin quand on parle, quand je parlais des normes au sens de ce qui effectivement sont des dispositifs de régulation, j'entends pas ce genre de contenu, si vous voulez, juste un dispositif qui fait que au fond on peut se situer par rapport aux autres vivants. Hein. Pas seulement des choses de, comment dire, les normes, si vous voulez, ce sera ce qui permet, au fond, au sens purement, même au sens vital, mais aussi au sens social, ce sera des dispositifs qui émanent des liens entre les êtres humains et qui régulent les manières d'être ensemble, avec évidemment des effets en retour sur les manières d'être singulières. À partir du moment où on se rend compte que les êtres humains, ce n'est pas des sujets auto-centrés et auto-référents, c'est-à-dire qu'un être humain devient une singularité par une sorte de repli sur quelque chose qu'on appellera l'intériorité, hein, de tout le monde extérieur retraduit d'une certaine manière, réinterprété. Enfin, c'est Lacan qui a inventé un terme que je trouve assez fort pour décrire ce que c'est l'intimité. Parce que effectivement, les normes, hein, c'est pas seulement quelque chose qui du dehors s'impose à vous. C'est quelque chose que vous avez en quelque sorte incorporé, intériorisé, qui fait que vous vous comportez de telle ou telle manière dans telle ou telle situation. Par exemple, quand vous êtes à la plage, vous vous promenez pas avec un imperméable et un parapluie. Bon. J'ai vu un jour un type là qui, pour s'amuser, mais se baignait avec un parapluie alors qu'il pleuvait. C'était pour rigoler. Mais c'était une manière de faire bien voir comment, au fond, les normes de comportement dans un endroit comme ça sont pas les mêmes que dans la rue, par exemple. Hein, vous, si vous vous promenez, moi j'ai vu aussi un type dans la rue il y a quelques années, il pleuvait beaucoup, il était avec un espèce d'habit d'homme grenouille et des Nike par ailleurs. Bon, évidemment c'était drôle de le voir en homme grenouille. Bon, on voit, si vous voulez, il y a une autre, pour revenir à cette question, non, mais il y a un sociologue américain qui est Irving Goffman, qui a bien réfléchi, qui a bien montré quelle était au fond l'origine des normes que nous mettions en œuvre à chaque moment de notre vie, dans un certain nombre de ses livres, par exemple dans un livre qui s'appelle « Les cadres de l'expérience » ou alors dans un autre qui s'appelle « La mise en scène de la vie quotidienne ». Et il montre bien qu'il y a un certain nombre de conduites qui de façon tacite régulent nos manières de faire dans différentes situations et qui sont au fond des sortes de normes. Lesquelles normes sont des dispositifs, on va dire, d'adaptation aux situations qui peuvent être plus ou moins souples. Par exemple, la norme ici, c'est, il a fait d'ailleurs là-dessus, Goffman, un texte assez génial sur la conférence, où il décrit le rituel, si vous voulez, qui est le nôtre que nous partageons ici. Et la norme veut que, on est censé dire des choses que l'on a travaillées, qui permettent ensuite aux autres de rebondir, de réagir. Les autres sont censés faire un certain nombre de choses. Enfin, c'est-à-dire, il y a des comportements, si vous voulez, qui sont de façon totalement implicite et tacite, que nous mettons en œuvre collectivement et individuellement pour nous adapter à telle ou telle situation. Et de temps en temps, ça déraille. De temps en temps, ça déraille et ça déraille. Ça risque toujours de dérailler, et heureusement. Hein. C'est-à-dire, les normes, si vous voulez, sont toujours ces espèces de choses un peu mouvantes qui peuvent être mises en crise à tel ou tel moment. Donc, les normes, ce n'est rien d'autre, au fond, en ce sens-là, que des dispositifs régulateurs. Par exemple, dans la langue, c'est la grammaire et l'usage d'un lexique. Alors, si les normes étaient fixes, on parlerait encore latin. Ben non, on ne parle pas latin, on parle français, italien, et dans 150 ans, je ne sais pas ce qu'on parlera. C'est-à-dire qu'il y a toujours des normes qui font qu'on peut parler ensemble, mais si je me mets, moi, à vous parler latin, j'en serais bien incapable. Hein. J'ai vu qu'il y avait un assimil pour parler latin, d'ailleurs. Évidemment, vous ne me comprendrez pas. Mais si on vous parachutait à la Rome antique dans un sens de film de science-fiction et que vous vous comportiez, non seulement que vous parliez français, mais que vous vous comportiez comme vous vous comportez dans le monde du 21e siècle, on se demanderait d'où vous sortez, si vous voulez. Donc, c'est juste ça, les normes. Donc, historiquement, anthropologiquement, plus exactement, c'est des dispositifs de lien, on va dire, les normes. Mais ils peuvent être plus ou moins figés.
Oui, mais par rapport à la différence homme-femme, qu'est-ce qui a fait qu'on a incorporé cette différence de manière très très présente, très marquée? Par exemple, mis à part l'allaitement du bébé pendant les 6 mois ou 2 ans, au tout départ, les femmes pouvaient aller à la guerre, les femmes pouvaient bricoler, et pourquoi? Enfin, ça aurait été même très utile. Et donc, qu'est-ce qui a fait qu'on a incorporé cette différence et à quel moment?
Bon, alors, j'en sais rien à quel moment, franchement, je ne sais pas, je n'y étais pas. Je pense que c'est je peux répondre d'une manière un petit peu, tout à l'heure, je parlais je pense que c'est par commodité, franchement, je crois que c'est par commodité, c'est qu'on va au plus facile, au plus pressé et à ce qui protège le plus de l'angoisse. Alors, je vais faire un petit détour sur cette question parce que, quand je citais Mary Douglas tout à l'heure qui disait on a exagéré la différence homme-femme, etc., les rapports d'opposition binaire, si vous voulez, pour créer un semblant d'ordre. Elle dit bien un semblant d'ordre, d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est pas crédible, cette affaire-là. Bon. Eh bien, quand Goffman nous raconte les toilettes homme-femme, etc., il dit bien sûr, il y a un fait, il y a des dissemblances. Je préfère parler de dissemblances. Parce qu'en plus d'un point de vue purement hormonal, biologique, etc., on sait très bien que c'est beaucoup plus indécis que ça. Les choses sont bien plus indécis. Mais d'un point de vue social, effectivement, je pense qu'il y a deux éléments de réponse qu'on peut vous donner, trois éléments de réponse à mon avis. Je pense qu'il y a un élément de réponse qui est effectivement c'est pratique. C'est assez pratique, mais ça a plein d'inconvénients aussi. Seulement, il y a des bénéfices secondaires qui sont que ça ordonne certaines relations de pouvoir. Bon, évidemment, à partir du moment où des relations de pouvoir sont ordonnées, c'est vrai que ça devient beaucoup plus difficile, et forcément hiérarchiquement. D'ailleurs, Françoise Héritier le montre bien. Moi, je suis très critique envers le travail de Françoise Héritier sur beaucoup de points, mais il y a au moins une chose, je pense, qu'elle a très bien marquée, qui est cette affaire de valence différentielle des sexes, c'est-à-dire d'une hiérarchie, puisqu'on divise en deux, pour éviter quand même que ça se confonde, pour le cas où ce serait trop sur un plan d'égalité, c'est très compliqué cette égalité. Eh bien, on hiérarchise. On hiérarchise, mais en même temps, on inverse la hiérarchie, parce que Françoise Héritier, elle nous dit des trucs du genre que c'est parce que les hommes sont jaloux du pouvoir procréateur des femmes, que, etc., etc. Bon, je trouve que ça aussi, c'est un conte, si vous voulez, même si au niveau du fantasme, c'est vrai. Mais c'est une description de fantasme. Le problème, c'est qu'est-ce qui fait que des fantasmes deviennent réels, c'est-à-dire opèrent, deviennent réels, produisent de la réalité. Produisent de la réalité au sens où ils ordonnent très, très concrètement des relations de pouvoir, des rôles sociaux, etc. Ben, je crois que c'est tout le travail qu'on a effectivement à faire, c'est-à-dire de se rendre compte qu'au fond, ce n'est pas du tout une donnée naturelle, ce n'est pas non plus simplement une pure construction sociale, c'est une incorporation singulière par chacun de certaines situations ou places. Seulement, je pense que ce qui vient perturber tout ça, parce que heureusement c'est toujours perturbé, et on le voit bien aujourd'hui, c'est-à-dire il y a eu quand même dans le, bah, disons, dans le, prenons le XXe siècle, la deuxième partie, non, le XXe siècle, il y a eu un certain nombre d'événements sur, concernant le rapport homme-femme, bon, le féminisme dans ses différents avatars. Bon, la transformation, ben la, les modifications de ce que Foucault appelait le dispositif de sexualité, c'est-à-dire la manière dont ces quelques dernières années, dans nos sociétés occidentales, eh bien, on a parfaitement pu envisager, eh bien, la légitimité, la légalisation des couples de même sexe et la parentalité, la parenté homosexuée, ce qui sont des choses qui ne se sont pas produites auparavant. Quelles que soient les choses qui soient produites, je dirais, en cachette ou clandestinement. Je ne parle pas de ça. Je parle de ce qui est, au fond, de ce qui peut devenir parfaitement normal dans une société. Au sens où je parlais de ma collègue là, qui disait l'effort pour rendre l'autre normal. C'est-à-dire lui faire sa place dans le champ de ce qui est normal. C'est-à-dire de ce qui peut être vécu comme non monstrueux, justement. Voilà. Ben, il me semble que ce qui c'est. Moi, j'ai plusieurs. Alors, je vais répondre sur. Je vais développer ce point-là. Le troisième point que je voulais dire, c'est pratique. Ça ordonne des relations de pouvoir et aussi, je crois que ça a une fonction de protection contre l'angoisse. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que c'est lié à ce que je disais tout à l'heure sur la question du langage ordinaire et du fait qu'il n'y a aucune garantie que ce qu'on dit correspond à quelque réalité objective. Enfin, c'est vrai, si vous voulez, finalement, ce qui circule. Je crois que, par exemple, le fait qu'on dise, que moi je vous dise je suis une femme, par exemple, je pense que je le sais par oui-dire. Je pense que je le sais par oui-dire, et je ne critique pas du tout le oui-dire. Spinoza critiquait le oui-dire en disant qu'il y a plusieurs régimes de connaissances. La pire des toutes, c'est la connaissance par oui-dire, c'est-à-dire on a entendu dire que, donc, voilà, on le pense. Et puis, on arrive à une connaissance qui est beaucoup plus fiable et qui ne serait plus la connaissance par oui-dire. Moi, je ne crois pas du tout qu'on puisse sortir de la connaissance par oui-dire. Je pense, par contre, qu'on peut l'analyser, cette connaissance par oui-dire. C'est-à-dire qu'on peut essayer de mettre au jour comment elle s'est constituée, comment telle version, si vous voulez, de notre représentation de ce que c'est homme-femme et d'un certain nombre d'autres choses. C'est comment notre version s'est constituée, comment elle pourrait être autre que ce qu'elle est, comment elle peut se transformer. Bon. Et je pense que là, je crois que c'est vraiment le travail qu'on fait au jour, qu'on essaye de faire, si vous voulez, c'est ce qui force à penser, hein, comme dit votre séminaire. Donc je pense que c'est une protection contre l'angoisse parce qu'il me semble que la relation à cette indécidabilité foncière de l'interprétation du oui-dire. Je pense qu'elle est source d'angoisse au sens où, effectivement, elle peut ouvrir sur une sorte de doute absolu et ou même de rien du tout. C'est-à-dire, enfin c'est bon, il y a un passage de séminaire de Lacan sur l'angoisse que je trouve assez intéressant où il dit au fond que les mots, ce qui caractérise le langage humain, le langage, quoi, l'usage du langage, c'est qu'on peut, on est susceptible de se tromper et qu'on n'a jamais de garantie comme quoi on ne se trompera pas sur une interprétation. Donc je pense que ça, c'est une source d'angoisse extrêmement grande qui conduit à dire « je préfère qu'il y ait un sens auquel je crois, même si par ailleurs... » Bon, et Lacan le souligne aussi dans le fameux séminaire « Les noms du père », les noms plus loin dupes, R, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dupes du caractère complètement par oui dire justement de ce qu'on pense être, les significations, eh bien ils errent, c'est-à-dire qu'il y a toujours le risque de se perdre, de s'égarer dans le nulle part, on va dire. Bon, donc les noms du père, le père en un seul mot, l'autorité, etc., etc. Bon, le pouvoir, là c'est les relations de pouvoir. Donc je pense que c'est l'angoisse de le fait que le sens est indécidable, que en plus c'est extrêmement fatigant de toujours essayer de traduire, retraduire et dire « ah bah oui, c'est par oui dire, mais c'est peut-être comme ça, mais ça pourrait être comme si », et qu'au fond c'est toujours des points de vue, et que dès qu'on se déplace, c'est comme quand on se promène dans un paysage. Si on marche dans un paysage, bah le paysage il change. Bon, et quand on marche dans sa propre vie, bah le paysage il change aussi. Je pense aussi que c'est lié à quelque chose que Freud a souligné sans vraiment en tirer les conséquences quand il parle du narcissisme des petites différences. Et quand il, dans l'inquiétante étrangeté, il réfléchit à l'espèce de panique que peut susciter, au fond, le double ou le semblable ou le très proche. Et effectivement, bon, le narcissisme de petites différences, il fait remarquer qu'au fond, on déteste beaucoup plus son voisin que ce qui serait supposé être du radicalement autre, comme si ça existait du radicalement autre, je ne le crois pas une minute, hein. Mais c'est vrai qu'il dit, les Portugais détestent les Espagnols, les Anglais détestent les... etc. Et en famille, c'est là qu'on se hait le plus, qu'on se supporte le moins. Bon. Et effectivement, il développe tout un... Dans l'inquiétante étrangeté, il parle de l'angoisse et il montre bien comment la relation à ce qui est très ressemblant est extrêmement troublante, parce que... Pourquoi elle est si troublante ? Parce qu'elle renvoie, on pourrait dire en miroir, ou en écho plus exactement, au fait que soi-même, justement, on n'est pas un. On n'est pas un, on est plein de choses. On est une foule, si vous voulez. On est fissuré. Il n'y a pas d'unité fixe, initiale, d'un sujet. Il n'y a que de... C'est pour ça que je ne suis pas très d'accord avec certains développements de Judith Butler quand elle parle de la dépossession, etc. C'est comme s'il y avait une possession originaire. Je crois que ce qui est premier dans l'expérience des humains, c'est justement, précisément, ne pas exister comme sujet, quoi. C'est n'exister que traversé par, effectivement, des tas de choses, des sensations, des affects, des mots, des trucs, enfin un magma de choses auxquelles on ne comprend rien. Et pour se constituer, on en expulse une partie, on en intériorise une autre et on se constitue comme un sujet. Et sur ce point, je pense que cette affaire d'instinct de mort dont il était question tout à l'heure, hein, c'est une drôle de notion, ça, chez Freud, cette pulsion de mort que Deleuze reprend à sa façon. Je pense que Ferenczi a dit quelque chose de très juste là-dessus dans un texte qui s'appelle « L'enfant mal accueilli et sa pulsion de mort ». Et là, je réponds à cette histoire de l'angoisse et des normes, etc. Il montre bien comment un enfant, quand on arrive au monde, en fait, c'est que du non-moi, d'une certaine manière. C'est que du non-moi, c'est que du magma, quoi. Et que il faut une dose, il dit, énorme de sollicitude de la part des adultes, hein, d'attention, de soins, pour que petit à petit, donc la possibilité d'une enveloppe, on pourrait dire, d'une enveloppe qui va construire certaines figures de soi, disons, se construisent. Mais bon, que s'il n'y a pas ça, d'une certaine manière, la tendance à reglisser vers le non-être, qui se manifestera à l'âge adulte par des pulsions de destruction, d'autodestruction, va effectivement émerger. L'expérience clinique le montre, ça, tout à fait bien. Et en même temps, c'est très difficile ce rapport initial, parce que, au fond, pour un adulte, le nourrisson, dans cette espèce de non-être, enfin de non-être, il est là, si vous voulez, mais non-être au sens d'un individu, d'un sujet, même si on le voit comme tel, n'empêche qu'il ne se ressent pas forcément comme tel, c'est hyper angoissant. C'est-à-dire, on voit bien comment les certains cris des nourrissons, des bébés, sont insupportables pour les adultes, notamment pour leur mère, parce que ça éveille probablement l'écho d'une sorte d'expérience complètement oubliée, refoulée, même pas refoulée, mais d'une certaine manière finie, quoi, mais qui en même temps peut ressurgir sous forme de cette angoisse. c'est-à-dire de l'angoisse où on n'est pas relié, quoi. On n'est pas relié. Donc je crois que ce qui organise, disons, le pouvoir des normes, leur force et la figure qu'elles prennent, c'est justement à la fois ces pratiques, ça calme l'angoisse, et en plus, ça permet un semblant d'ordre, et notamment un ordre de relation de pouvoir. Et en même temps, ce qui les met en crise, c'est que c'est asphyxiant à cause de la manière dont les relations de pouvoir oppressent, effectivement, viennent buter sur un certain nombre d'autres mouvements. Et puis aussi, d'une certaine manière, comme je disais tout à l'heure, il y a des conflits de normes. C'est-à-dire, pour un même sujet, eh bien, il peut y avoir deux normes ou trois normes qui sont aussi violentes et exigeantes et impératives l'une que l'autre, mais qui sont en conflit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça aussi que ça peut changer. Hein, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais disons, voilà, c'est dans ces directions-là.
Allez-y. Oui, je veux une question rapide parce que l'intervention était fort intéressante, mais un petit peu longue, si je peux me permettre. Moi, je voulais m'adresser à Frédéric Rambaud par rapport au tout début de ce qui a été dit. La réserve qui a été émise par rapport au couple normes transgression, si j'ai bien compris, j'ai cru qu'on pouvait un peu trouver un substitut à partir de la dénégation, à savoir le renoncement du désir par rapport à la loi.
Oui.
Enfin, bon. Alors, moi, je m'interroge par rapport à la dénégation, justement. Est-ce qu'il y a une place pour la transgression, finalement? Voilà.
Ce que j'essayais de montrer, c'est que... je sais pas. Enfin, moi, j'avais l'impression plutôt que l'un n'allait pas avec l'autre, que dans la transgression, il y avait quelque chose, de volontaire, de volontariste, et peut-être d'un peu rapide, quoi. Enfin, une manière de... Moi, ce qu'on peut bien comprendre aujourd'hui, quoi. Voilà, soyons transgressifs. Et que je trouvais, c'est que chez Deleuze, il y avait une position qui n'est pas évidente, enfin, je dirais, qui me semble très problématique, qui me semble pas forcément très concluante sur beaucoup d'aspects, mais qui était assez originale à cet égard. Et que je trouve que sa subtilité, c'est qu'évidemment, il tord la notion même de dénégation. Enfin, je veux dire, autant il rejette la notion de transgression de manière très claire, autant celle de dénégation, il la pervertit. Et ça, c'est intéressant, parce que effectivement, dans son usage, dans son usage le plus courant, la dénégation, c'est une manière de reconnaître ce qu'on a refoulé ou ce qu'on ne veut pas reconnaître. Vous pourriez croire que j'ai rêvé de ma mère, elle a tous les traits de ma mère, mais c'est pas elle. Alors, c'est elle, et donc, voilà. La dénégation de l'analyste. Et l'intéressant, c'est que justement, Deleuze, il ne rentre pas du tout là-dedans, quoi. C'est-à-dire que la dénégation ne veut rien dire d'autre que ce qu'elle dit. Elle n'a pas à être interprétée. Elle fait fuir tout type d'interprétation. Elle clôt le processus perpétuel de l'interprétation. Et c'est ça que je trouvais intéressant chez Deleuze. Ouais. Et alors, évidemment, après, moi, je trouve ça très beau. Je le dis, voilà ce que dit Deleuze. En même temps, je ne suis pas du tout convaincu, quoi. Je n'ai pas l'impression qu'effectivement... je ne vois pas l'efficacité concrète que peut avoir le processus de la dénégation dont il parle ou de la suspension. Ce que je trouve intéressant, c'est l'usage philosophique qu'il en fait. La manière dont, je suis d'accord, effectivement, parler de pervers, ça va pas de soi. Mais quand Deleuze en parle, il en parle comme d'une disposition de pensée, quoi. Et pas évidemment comme d'une catégorie psychiatrique. Donc, ça c'est intéressant. Ouais. Maintenant, que cette méthode puisse, par exemple, avoir effectivement une puissance de contestation sociale qui nous permette de mettre en cause des normes, je suspends mon jugement à cet égard. Quoi. Ça, j'en sais rien du tout.
Ouais. Bonjour. Alors, en fait, j'aurais une question pour chacun d'entre vous. Pour Frédéric Rambaud, donc je comprends bien que la variation des normes s'effectue dans les écarts Mais je m'interroge en fait sur la notion de désidentification dont vous parlez. Parce que est-ce que, pour le coup, est-ce qu'on ne peut pas s'identifier dans l'écart? C'est un peu ma question. C'est ma question. Et Sabine Procoris, je me fâchais intérieurement pendant tout le long de votre monologue. C'était un petit peu long. Et il y a pas mal de choses, du coup, j'avais envie de vous dire. Et j'espère que je vais être claire. Je pense qu'on a simplement, enfin simplement, toutes les choses sont tellement simples, un concept sur la norme qui est complètement différente. Parce que moi, je ne vois pas du tout les normes comme un consensus entre les gens et comme quelque chose qui puisse nous rassembler ou voilà, qu'on arrive à vivre ensemble et se comprendre tous ensemble. Pour moi, les normes, c'est des représentations et des discours des populations dominantes, de la population dominante, même, j'ai envie de dire, quand on parle d'origine, moi je ne connais pas l'origine des normes, effectivement c'est compliqué, mais en tout cas elles s'effectuent très fortement dans nos vies concrètes et je trouve ça dommage que nos intervenants n'en parlent pas dans toutes les représentations de femmes, d'hommes très stéréotypées qui sont montrées dans les publicités, dans la télévision, où quand même c'est une majorité des représentations et des communications qu'on a de nos jours et qui ont beaucoup d'influence sur la population et sur la pérennisation des normes. Mais là, normes en tant que stéréotype. Et en tant que stéréotype, et je n'entends pas stéréotype comme un effet négatif forcément. Attendez, je regarde mes notes. Par rapport à un moment, vous avez dit que l'idée des normes était profondément inconsistante, et je voulais savoir. Enfin, j'ai compris que effectivement les normes sont changeantes historiquement. Voilà, par rapport aux différents milieux de vie dans lesquels on vit, on n'a pas les normes se refont et se défont et changent. Mais dans le sens où on dit qu'elles sont inconsistantes pour la chose dont je viens de dire. Enfin, moi, ça me blesse parce que pour moi, la norme elle m'agresse énormément. Parce que je retrouve pas mon identité, ma construction à moi, qui j'ai envie d'être dans ce qu'on appelle les normes.
Oui, je vais vous répondre. Je pense que c'est.
Ouais. Est-ce que je peux juste finir deux secondes? Merci.
Je vous ai dit une question, donc.
Ouais, mais du coup j'ai quand même. Enfin, j'avais pas mal de trucs. Je suis désolée. Mais bon, vous avez aussi parlé la moitié du temps.
Vas-y, James, on t'écoute. Ouais.
Et donc voilà, moi je veux un petit peu tourner les débats et nos discussions et nos réflexions sur le fait que les normes, moi je les considère comme dangereuses parce que les normes, leurs effets principaux, c'est quand même c'est leurs injonctions et donc comment elles nous retournent pour vivre d'une certaine manière et du coup pas vivre dans la manière dont nous, intérieurement, on aurait peut-être l'espoir de vouloir vivre ou de se libérer. Mais c'est, voilà, pour être normal, va falloir que je vive de cette façon pour être compréhensible par rapport aux autres. Et c'est là où moi je dis, et je l'affirme, que le hors-norme existe.
Alors, je vais
Et du coup, je voudrais juste finir en disant que moi, je ne suis pas une femme, je ne suis pas un homme, et je suis un monstre, si vous voulez. Mais enfin, je suis un monstre et je peux l'assumer. Et je ne suis pas angoissée pour autant.
Bon, merci. Je vais essayer de répondre parce que je pense qu'il y a sans doute un certain nombre de malentendus dans ce que vous me renvoyez. D'abord, je n'ai jamais dit que la norme, c'était le consensus. J'ai dit qu'un certain fonctionnement de la norme, qui est justement le fonctionnement oppressant, fonctionne sur le mode du consensus, qui produit des standards. Bon, voilà. J'ai pas dit ça, et j'ai dit qu'il me semblait que le trajet qu'on essayait d'avoir à faire, enfin à mes yeux qu'on a à faire, c'est effectivement de passer du consensus qui est au fond une sorte de mensonge utile à certains et oppressant pour d'autres, qui va effectivement trancher entre ceux qui seraient normés plutôt que normaux d'un côté, et puis les anormaux de l'autre. Il y a un cours de Foucault d'ailleurs qui s'appelle Les Anormaux au Collège de France,
monstre, si vous voulez, pour moi, c'est une catégorie pas particulièrement moins normée que d'autres. Bon. Donc, pour moi, ce qui me semble... Je disais que le trajet qui me semblait utile, intéressant et qui se... Bon, dans beaucoup d'existences peut avoir lieu, c'est de passer d'une norme comme consensus, autrement dit qui produit du normé, à la norme comme... Enfin, aux normes comme accordage qui produit effectivement une extension du normal au-delà du ce qui paraît être dans le consensus le normé. Voilà. Donc c'est ça que j'ai dit. Et je n'ai jamais dit que le consensus c'était bien. Sûrement pas. Je n'y crois pas un instant au consensus. Je pense que c'est quelque chose qui est parfaitement illusoire, si vous voulez, et effectivement dangereux, parce que ça exerce une emprise sur la base du mensonge qu'on pourrait être d'accord sur quelque chose. Bon, je pense que non. Par contre, on peut essayer de s'entendre, ce qui est autre chose. Et dès lors qu'on essaye de s'entendre, on accepte effectivement qu'il y ait des écarts entre les uns et les autres, mais aussi à l'intérieur de soi. C'est pour ça que je ne crois pas davantage à ce que vous défendez, c'est-à-dire l'intériorité, est-ce que moi, vous, moi ou n'importe qui voudrait être. Parce que d'où ça sort, ça ? Sinon, de quelque chose qui est d'une part, ça peut être juste une réponse à la norme, donc on retrouve l'histoire de la transgression, enfin à la norme comme, si vous voulez, standard ou consensus, et non pas comme processus, effectivement, je pense réellement précaire, et vous avez relevé un terme que j'avais employé, je me souviens plus ce que c'était, oui, inconsistant. Je pense que c'est profondément inconsistant au sens, c'est pas pour moi un défaut particulier, c'est pas un jugement, c'est pas un regret, c'est juste que, effectivement, ce qui constitue le lien entre les êtres humains, c'est inconsistant et c'est en même temps inévitable. Donc je ne pense pas que les êtres humains soient un assemblage, si vous voulez, d'individus qui chacun indique ce qu'ils veulent être. Ça, je pense que c'est, je ne sais pas d'où ça pourrait sortir, ça. Je pense que n'importe quel désir, justement, je veux être ceci ou je veux être cela, est lui-même, d'une certaine manière, inconsciemment normé par, éventuellement, le désir de transgression, mettons. Donc je pense qu'à ça, on n'y échappe pas, si vous voulez, et que par conséquent, ce qui me semble nécessaire, c'est qu'on sorte de ces catégories, justement, si vous voulez, de l'anormal, ou du monstrueux, ou de quelque chose de ce genre, mais pour pouvoir permettre à, effectivement, des situations, quelles qu'elles soient, de pouvoir trouver leur place, leur emplacement dans la communauté des êtres humains, et pas non plus, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai terminé en insistant sur le but. Je pense que quand quelqu'un vient en me disant je veux être ceci et je veux me trouver moi-même et être moi-même, très bien, mais à condition que on n'arrive pas à, justement que ça fonctionne pas comme une idée, comme une norme intérieure qui est aussi violente, je pense, que les normes que l'on pense subir. Je pense que c'est une autre manière de subir.
Moi, je vais faire juste une intervention rapide concernant la difficulté du débat et comment les choses prennent forme ou ne prennent pas forme. Je pense qu'il s'agit de deux débats différents, hein, sur une partie beaucoup plus théorique et une autre beaucoup plus pratique, ce que tu évoquais, James. C'est effectivement la difficulté de s'entendre, pour le coup, sur de quoi on parle quand on parle de transgression et de quoi on parle quand on parle de normes, si les normes sont évoquées de façon philosophique et sociale, ou est-ce qu'elles ont une réalité concrète et auquel cas nous la subissons, et dans ce cas la transgression est indissociable du couple même norme et transgression, et qu'elles ont aussi un moyen de résistance concret, donc pas forcément inutile à mon goût. Donc je voulais juste replacer le débat en ce sens là sur on parle de quoi, de normes sur le plan philosophique, ou on parle de normes concrètes, voilà. James, ce que je propose, c'est qu'on laisse Frédéric Rambaud parler, ensuite Karine, et puis je te laisse la parole.
Non, je vais lui répondre à la question qu'elle a posée, puisqu'elle m'était adressée. Sur la JI, enfin bon, peu importe. Sur la question du désir et de l'identification. Savoir si on peut s'identifier dans l'écart, bon, c'est vrai que c'est une grande question. J'essaie de dire que À partir du moment où l'écart devient identificateur, c'est aussi un risque de l'écart, de s'identifier à cet écart-là. Et ce qui m'intéresse dans la notion de désidentification, même si évidemment, à bien des égards, elle est tout à fait contestable, quoi, hein, mais c'est qu'elle cible un terrain des relations de pouvoir contemporaines, bon, enfin depuis maintenant un petit moment, qui est celui de l'identification. Autrement dit, les relations de pouvoir dans lesquelles on est installé, dans lesquelles on est pris, fonctionnent à l'identification, fonctionnent à l'assignation, à une identité fixe, inchangeable. Bon, c'est dans ce sens-là que je le disais. Alors après, je pense qu'effectivement, il faudrait un peu sophistiquer et raffiner la question, quoi, que j'ai essayé de poser. Mais un écart identificateur, ce que j'ai essayé de dire, quoi, c'est que oui, à ce moment-là, c'est un hors-norme qui devient une nouvelle norme. Et effectivement, c'est toujours possible. Certains appellent ça du progrès. Mais bon, c'est toujours ce qui risque de se produire, oui, de nouvelles normes. Ah, c'était hors norme, et puis enfin, on a gagné, c'est devenu enfin une norme comme les autres, quoi. Bon.
Oui. C'est à la fois passionnant et tendu. J'appartiens moi aussi à ce monde de l'angoisse. Dont je suis sorti ce soir, de ce monde de l'informe, parce que au sens des normes, de ce qui a été dit tout à l'heure, ce qui est intéressant quand même, c'est quand la psychanalyse est attaquée, elle s'est retrouvée le choix du conditionnel. Je veux bien que vous fassiez à condition que ça. Je trouve que c'est un naturel qui revient vite au galop. Je trouve que ce qui manque peut-être un petit peu de ce que je n'ai pas entendu. Je vais citer son nom. C'est Monique Wittig. On a cité Butler. Moi, je suis plutôt tendance Wittig. Wittig indiquait bien que au fond, si on regarde bien les normes. J'aimerais dire presque comme le Seigneur des Anneaux. Il y a l'anneau qui les gouverne tous. Il y a la norme qui les gouverne toutes. Et la norme qui les gouverne toutes, c'est bien la différence des sexes. Cette norme, elle n'a pas d'histoire. Donc peut-être que Butler a raison. Je veux dire, elle n'a pas un début. Je veux dire, elle est simplement une prise de pouvoir à un moment donné qui crée une norme. Elle se répète effectivement, c'est-à-dire qu'on la reproduit. On la reproduit, on sait que c'est un système politique qui reproduit. Ce système politique s'appelle l'hétérosexualité. Ce système politique, comme le capitalisme, il se modifie effectivement, il s'adapte. Donc l'hétérosexualité s'est adaptée en incorporant sa déviation modeste qui est l'homosexualité, et vous le citiez tout à l'heure, notamment sur la question du Pax. On voit bien que cette société politique est prête à accepter comment un certain nombre de modifications à la norme, fondamentale. Alors après, qu'est-ce qui reste comme combat pour libérer l'humain? Enfin, parce que je pense qu'au fond, on a tous envie d'un peu plus de liberté. Je crois que oui, ce sont moi j'ai fait ce parcours qui transgressif ou je sais pas quoi. Enfin, peu importe, j'ai fait ce parcours-là. Et puis j'aurais pu me fondre dans la norme en disant, bah, finalement, on m'accède ma petite place. Non, je suis revenu parce que justement, je trouve ça plus intéressant de continuer à rendre monstrueuse, anormale. Ce système politique, parce que justement, je veux dire, en se libérant, on ne peut pas accepter d'être à nouveau emprisonné. Et ce que j'aimerais, c'est que justement, si Sabine Procoris a compris peut-être que Freud a fondé justement la différence des sexes, en la récupérer pour la psychanalyse, en sachant qu'il s'agissait probablement d'une monstrueuse escroquerie sémantique, je pense qu'il serait intéressant que là, pour le coup, du coup, on termine avec cette assignation dans des classes de sexe et qu'on atteigne enfin l'étape suivante que Monique Wittig souhaitait dans la posée straight.
Une autre question?
Oui, par rapport au fait que les normes, enfin vouloir transgresser les normes, créer une nouvelle norme et qu'il y a un danger à ça, je pense que si on essaye d'aborder cette question-là autrement que sur le mode de la séparation entre une pensée élevée théorique et puis, je sais pas quoi, des problèmes concrets auxquels les personnes seraient confrontées, on a peut-être des pistes, des lignes de fuite de cette contradiction apparemment insoluble. Par exemple, il me semble que dans des pratiques politiques individuelles ou collectives, le fait de transgresser peut créer des espaces, pas en tant que finalité, mais peut créer des espaces dans lesquels des processus individuels et collectifs encore vont produire des identités et que peut-être ce qui est intéressant, ce n'est pas tant les identités qui sont produites si on les observe comme ça en elles-mêmes, mais les processus par lesquels ces identités sont produites, sont éventuellement détruites, pareil peut-être selon des processus identiques, et surtout le rapport qu'il y a entre les identités et les personnes, individus, collectifs, sujets qui produisent ces identités, autrement dit ce lien je dirais de prise de contrôle, de production, d'autoproduction de ces identités. Et donc c'est surtout dans cette relation-là qui est liée au mode précis de production de ces identités qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir et que, par exemple, en pratique, les transgressions sont des moyens de construire des espaces dans lesquels ces pratiques-là, ces pratiques complexes de production des identités dans des domaines, dans des environnements où les normes agissent et produisent et reproduisent de l'identique, il est possible justement d'essayer de faire autre chose. Donc là, il me semble effectivement que dans des pratiques quotidiennes de groupes avec lesquels je vis politiquement et individuellement, eh bien, les deux questions se croisent, s'alimentent, et certes sont, comme vous le disiez, toujours en danger. Il y a toujours le danger, mais on s'en sort comment ? On s'en sort par l'action concrète, pratique, qui est à la fois celle qui nous permet en tant qu'individu de vivre, d'avoir une vie vivable, et en même temps de ne pas être assujetti totalement à la norme. Alors, ce n'est pas une question, manifestement. Maintenant, par contre, j'ai une question quand même. Là, il y a quelque chose qui m'a totalement échappé, c'est la définition de la norme qui, en fait, n'est pas le standard, mais c'est la norme qui étend le champ de ce qui est normal. Alors, qu'est-ce que ce qui est normal ?
Vous vous adressiez à Frédéric Rambaud ou les deux ou...
Non.
À Sabine.
Qui pourrait me répondre ?
C'est assez simple. Je pense qu'il n'y a pas de contenu à ce qui est normal. Je vais juste reprendre une formule freudienne, oui, quand même. Il dit que être normal, c'est pouvoir aimer et travailler. Ce que veut dire, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire aimer ceci, aimer telle personne. Il n'y a pas ça, rien sur les manières d'aimer ou sur les manières de travailler. Aimer et travailler, qu'est-ce que c'est ? C'est justement pouvoir se désidentifier, je crois, pour revenir à la désidentification. Et là, je vous reciterai un petit passage de Beckett dans Premier amour où il dit, il parle de l'amour justement, et je pense que ça vaut pour le travail au sens de ce qui nous met hors de nous-mêmes, qu'il dit, au fond, c'est horrible, c'est vraiment une expérience très pénible, l'amour, dit-il, parce qu'on n'est plus soi-même dans ces conditions. Et il dit, tant qu'on est soi-même, on sait quoi faire pour l'être un petit peu moins, mais quand on ne l'est plus, plus moyen de s'estomper. Voilà. Donc, c'est tout.
Annie, est-ce que tu peux amener le micro à... Excuse-moi.
Non, je vous en prie. Oui, en fait, je voulais répondre un peu à ce que vous a répondu à la jeune femme qui a posé la question tout à l'heure et par rapport à James. Le thème de la conférence, c'était sur l'origine de l'oppression des normes. Et la jeune femme vous a demandé d'où venaient ces normes. Et vous ne m'entendez pas ?
Pas tellement, non.
D'accord. Et donc, sans vouloir vous enfoncer, je trouve que vous n'avez pas répondu à la question. Puisque, bien entendu, vous n'êtes pas historienne, vous êtes psychanalyste, si je ne me trompe pas. Mais les normes, ça ne sort pas de nulle part. Et je trouve que vous avez répondu un peu à côté. Puisque il y a une histoire, il y a des choses qui ont été écrites. Aristote a écrit des choses, les médecins ont écrit des choses qui ont créé ces normes. Et j'ai trouvé dommage un peu que vous ne répondiez pas précisément en disant soit je ne sais pas, adressez-vous à quelqu'un d'autre, ou enfin vous avez un peu éludé la question. Et donc ce que James a dit, c'est que les normes ont été produites par une classe dominante, Et je pense qu'il y a un malentendu entre vous. Vous n'avez peut-être pas... Enfin... Oui, vous ne parlez pas de la même chose, mais elle a dit ça, et je trouve que c'est indispensable de revenir sur cette question-là. Et le poids de ces normes, comme l'a dit James, n'est pas...
Je veux pas pouvoir répondre vraiment parce que j'apporte pas des réponses, hein, je prétends pas apporter des réponses. Ensuite, j'ai déjà parlé trop longtemps, donc je pouvais pas vous faire tout depuis Aristote. Et ensuite, je trouve que vous êtes dans une pensée un peu trop binaire, justement.
Oui, moi aussi. Ça m'intéresse.
D'un côté, la classe dominante qui a produit les normes, et de l'autre, les opprimés qui les ont subies. Ça me semble beaucoup trop simplificateur.
C'est quand même une réalité, non,
c'est pas comme ça que je pense les choses ont pu se passer. N'importe quel historien sérieux vous montrera que c'est beaucoup plus complexe que ça, le jeu des normes. Le jeu des normes. C'est pour ça que je dis ça me semble une pensée binaire, simplificatrice, très pratique. Exactement de même nature que celle qui fait qu'on croit que les normes c'est ceci ou c'est cela et qu'on doit faire comme ci ou comme ça. C'est pareil.
Oui, mais ce que je voulais revenir sur ce que vous avez dit, que les normes étaient le moyen de communication entre les personnes.
Oui, je pense que les normes, je ne parle pas du contenu, encore une fois, des normes. Le contenu des normes, il est ce qu'il est et il est parfaitement critiquable, et Dieu merci. Je parle du dispositif, de ce qu'on appelle une norme, et c'est un dispositif régulateur des liens. Par exemple, quand on se parle, même si on s'entend difficilement, on emploie quand même des formes grammaticales qui fait qu'on peut comprendre ce qu'on disait. C'est pour ça que je disais que si les normes ne bougeaient pas, on parlerait latin aujourd'hui. Le fait qu'on ne parle plus latin, c'est que les normes d'usage du langage, par exemple, qui est un exemple, si vous voulez, très basique de qu'est-ce qui fait qu'il y a des normes, eh bien, se sont transformées. Mais on continue à utiliser le langage. Vous n'êtes pas en train de me parler une langue que vous avez inventée et que je serais censée, par imprégnation, deviner.
Non, j'ai absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'était justement sur cette obligation à entrer dans les normes pour pouvoir être compris et comprise par le reste du monde.
Mais c'est pas une obligation, c'est juste la condition des êtres humains.
Oui,
voilà. Mais c'est pas une obligation. Une obligation, c'est une injonction morale. Je suis désolée. C'est pas une obligation. Si vous voulez, je veux dire, d'une certaine manière, lorsque les gens se trouvent, parce qu'ils ont justement manqué de cet accueil minimal d'un être humain quand il vient au monde, et qu'ils ne peuvent pas entrer dans les normes partagées, je parle pas des contenus, encore une fois, mais dans la disposition aux normes. Hein, c'est pas pareil, c'est une disposition au fond. Eh bien, par exemple, prenons les enfants loups, ils peuvent pas rentrer, ils peuvent pas apprendre, ils peuvent pas vivre avec les autres humains, c'est tout. Bon, moi je veux bien qu'on fasse l'éloge de l'autisme, mais bon, c'est aussi une maladie, c'est aussi une souffrance.
Je crois que je vais juste reprendre ce qui a été énoncé par James et la personne au fond rapidement. La question qui a été posée en soi signifie au fond est-ce que les normes sont un moyen de langage nécessaire ou pas, enfin il me semble qu'on parle pas de la même chose.
Je crois que c'est pas un moyen de langage, c'est un dispositif régulateur. Bon, au sens vital, d'abord, Frédéric expliquait ça très bien en citant Canguilhem. Et quant aux normes sociales, c'est que comme il n'y a pas, si vous voulez, d'instinct comme chez les animaux pour trouver comment on doit vivre ensemble, les êtres humains, d'une certaine manière, c'est pas qu'il y a une, c'est pas, je veux dire, ça se fait de manière absolument complexe, avec bien évidemment. Et c'est ça qui a à combattre, évidemment, et à mettre en crise. Et d'ailleurs, ça se met en crise, de toute façon, les normes. Ça se met en crise. Eh bien, il se constitue des dispositifs régulateurs qui sont historiquement constitués. C'est pas parce qu'il y a un début qu'il n'y a pas un début qu'il n'y a pas d'histoire, hein, entre parenthèses. La question du début, c'est pas la même chose que la question de l'histoire et de l'historicité.
Oui. Justement, pour revenir à la relativité des normes, je parle d'ici, justement, il faut peut-être resituer d'où est-ce qu'on parle, parce que là, effectivement, quand on parle de normes ici, là, c'est, vous avez bien montré donc la relativité temporelle, mais la relativité spatiale aussi. De toute façon, là on a un luxe justement de réflexion sur les normes, de travail sur les normes qui changent dans la société occidentale. Hein, parce que si on va dans d'autres sociétés, on n'a pas ce luxe-là. Quand on voit que Ahmadinejad dit les homosexuels, ça n'existe pas en Iran, ben voilà d'autres normes qui sont carrément destructrices. Hein. Donc, voilà, les normes sont même là, parce que là, on parle, effectivement, on est dans un milieu assez cultivé, assez, soi-disant, donc, mais on voit très peu d'autres populations de Montreuil même, hein, des populations migrées, tout ça, les normes de ces populations migrées sont autres encore, hein, parce que on sait bien que les homosexuels, hommes ou femmes, s'arrangent dans les cités, tout ça, pour vivre, ne serait-ce que pour vivre tous les jours. On voit bien la relativité des normes. Bien
sûr. Non, mais juste par rapport, juste une, le, si on veut quand même ne pas jouer jusqu'au bout le jeu de, on comprend rien à ce qu'on dit, quoi. Je veux dire, on est bien obligé de se demander, bon. C'est peut-être autour de cette question-là qu'on tournait, c'est quel est, à certains moments, dans telle situation, le meilleur moyen de contester ou de subvertir une norme, quoi. Bon, et je reviens sur ce que vous disiez, bon, dans un processus politique, évidemment, ça sera, et collectif, ce sera peut-être pas de la même manière que dans une démarche personnelle et individuelle. Bon, bien sûr... Mais là, il faudrait effectivement raisonner au cas par cas, quoi. Et je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus dans un discours général, quoi. Ça se pose dans une pratique, et il faut serrer un certain nombre de pratiques qui sont tout à fait différentes, quoi. Voilà, c'est tout.
Les nouvelles normes, je vois la définition de la prise de l'adoption, il y a des couples de femmes, des couples d'hommes, dans une émission au grand public, on montre ça, et puis... Maintenant, je vois les normes bougent aussi. Hein,
Mais celle de la famille, la famille reste.
Non, justement. Non. Justement, c'est les émissions de l'adoption, on voit un couple de femmes et un couple d'hommes.
Et quand il dit la famille. La norme de la famille se perpétue. S'élargit pour survivre.
Oui, pensez bien au micro, sinon... Ça fait des blancs.
Sinon, vous ne serez pas enregistré.
Juste, il y a une question par là, et ensuite là, et ensuite là.
C'est juste, pour Sabine Procoris, en fait, ce que je trouve étrange, c'est que... Enfin, j'ai cru comprendre que vous disiez que, en fait, l'adoption d'une norme, ça fait juste parce que c'est pratique, ou pour se comprendre, en fait, comme bah, sur la façon d'un langage. Et alors, je vois pas... Enfin, je trouve ça... Je trouve ça bizarre de dire ça pour la différence, pour la norme de la différence homme-femme, parce que je pense pas que c'est pas quelque chose qui est juste pratique, c'est quelque chose qui a été ou alors qui est pratique pour une certaine partie, pour une certaine catégorie de la population. Et c'est en ça qu'on peut trouver une origine, c'est qu'il y a des personnes qui l'ont fait, que ça a arrangé en fait que cette différenciation là se produisent, et en ce sens-là, c'est politique. Et j'ai l'impression que quand vous comparez un peu trop au langage, c'est un peu réduire justement cette origine qui est politique. C'est pas seulement quelque chose qui est pratique pour l'ensemble de la population.
J'ai pas dit que c'était que pratique, j'ai dit que c'était un des aspects. J'ai pas du tout éludé la question de l'effet rapport de pouvoir, bien entendu, je l'ai dit dans les trois points que j'ai indiqués. Et ensuite, je crois pas qu'on puisse dire qu'on adopte une norme. Je crois que c'est une formule qui est... Enfin, moi, je ne la comprends pas, en tout cas. Je pense que c'est plutôt, qu'on le veuille ou non, les normes qui nous adoptent ou qui ne nous adoptent pas, et après, on s'arrange ou on ne s'arrange pas avec, et on les met en crise. Voilà. Parce que ça nous opprime, ça nous fait du mal, ou bien, voilà, ça nous accompagne un certain temps, et puis ça ne va plus. Voilà. Je ne pense pas du tout qu'on adopte une norme comme on va au supermarché et qu'on choisit telle marque de riz. Je crois que les normes qui sont... De toute façon, je crois que ce qui est difficile... Visiblement, je pense que peut-être un des points qu'il aurait été utile qu'on essaye de penser un petit peu plus, enfin, pour... Bon, c'est la question du collectif. Qu'est-ce que c'est le collectif ? Parce que j'ai l'impression que là, tout le monde... Enfin, beaucoup de questions émergent au fond d'une sorte de norme contemporaine aussi, je dirais, qui est cette sorte de croyance dans l'émergence des choses par les individus. Mais je pense que ça, c'est une profonde illusion. Je pense qu'il y a, et là, c'est une norme, et Foucault l'a très bien dit, quand il dit, par rapport au monde contemporain, que la norme homogénéise en individualisant. C'est-à-dire comme qu'elle produit, on produit, le monde contemporain produit comme norme l'individu autosuffisant qui adopte ou qui n'adopte pas telle ou telle norme. Je crois que c'est dans l'autre sens que les choses se passent. Et c'est ça qui est si difficile. Parce que, au fond, comment on fait, effectivement, du fait que les normes ne nous ont pas adoptées ou nous ont adoptées de travers, ou qu'on n'y arrive pas, et que, de toute façon, elles ne sont pas fiables.
Oui, alors moi je voudrais dire deux choses. D'une part, concernant le binaire, je ne sais pas si je suis d'accord avec ça, mais je pense que ces thématiques sont des thématiques profondément humaines et que, en tant que telles, forcément, elles ne sont pas réductrices à une opposition, quelle qu'elle soit, et effectivement, qu'elle soit homme-femme ou qu'elle soit je suis pour, je suis contre, elles font appel à une complexité qui est la nôtre. Et voilà, moi je suis pour la confusion, mais je ne suis pas pour la réduction. Voilà. Et je trouve que ce serait dommage de réduire la problématique, effectivement, à il y a eu des opprimés et des oppresseurs, il y a eu des méchants garçons qui ont opprimé des gentilles petites filles. Voilà. Ça, c'était la première chose, parce que je trouve que c'est important. Et la seconde chose, par contre, Madame Procoris, c'était par rapport à, et ça me semble pour le coup une réduction de votre part, vous avez parlé de, effectivement, il y a eu un moment donné où si les hommes ont eu le pouvoir, ils ont parfois justifié d'avoir le pouvoir par peur des femmes et du fait qu'elles étaient dépositées. Je ne sais pas comment vous avez dit. Ah, c'est Françoise Héritier. Oui, alors... D'accord. Il se trouve que vous avez réagi là-dessus en disant c'est un fantasme. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que c'est peut-être un fantasme. Il se trouve que c'est une chose qui est très présente dans des civilisations qui sont très anciennes. Pour revenir peut-être à... On a besoin de matériaux historiques aussi parce qu'on n'a pas, on n'est pas sorti aujourd'hui. Nos civilisations ne sont pas nées aujourd'hui. Et qu'il y a beaucoup qui ont constaté que cette chose-là, elle est très ancienne. Et donc, elle a une inscription profonde en nous qui dépasse la durée même de notre vie. Et donc, qui est véhiculée par des choses inconscientes qu'on ne peut pas, je pense, évacuer en disant cela tient du fantasme. Ah, voilà. Non, mais le mot fantasme, je ne sais pas ce qu'il veut dire de votre bouche, moi je ne suis pas du tout psychanalyste, mais pour moi, le mot fantasme fait un. Je l'en. Enfin voilà, c'était juste que. Bon, mais peut-être. Voilà.
Non, mais je suis d'accord avec vous. Hein.
Qui le micro
Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Quand je dis fantasme, c'est juste une construction de l'inconscient, c'est tout. Ça a produit des effets de réalité, bien entendu. Mais ce n'est pas quelque chose qui est qui ne peut jamais bouger. Non, c'est juste une formation de l'inconscient, c'est tout. Hein. C'est pas du tout... Mais c'est pas... Ce que je voulais dire, c'était que ce n'était pas l'émergence des choses elles-mêmes. C'est que les choses elles-mêmes sont produites par la puissance fantasmatique.
Moi, je me retrouvais tout à fait dans l'idée que la norme, c'est un discours de pouvoir principalement, et ça me semblait pas incompatible avec l'exposé que vous avez fait. Où il y avait cette moi ça m'évoquait cet aspect de baudruche de la norme, on peut aussi bien c'est pour ça que j'aimais pas non plus trop le mot de transgression. On a parlé de transgression, de critique de la norme. Pour moi, une transgression, c'est une loi, on peut transgresser par rapport à une loi, et une norme ne fait pas loi. La norme ne fait loi que si on lui donne le pouvoir de faire loi, ce que personnellement je lui accorde pas, enfin certaines normes, d'autres évidemment je rentre dedans. Et puis dans je voulais reparler, enfin ce que vous avez dit, ça m'a évoqué, vous disiez dans la transgression s'ouvre un espace où on peut créer autre chose. Moi je trouve pas que c'est dans la création que quelque chose s'ouvre. C'est pas dans la transgression. Transgression, toujours, c'est relié, c'est ligoté à la norme. Quand j'ai vu avant que la soirée ne commence, j'ai regardé le titre, moi j'aurais mis norme et création. Parce que ce qui peut s'opposer à la norme, c'est la création. C'est pas, enfin, la transgression. C'est, je vois quelque chose de.
Je sais pas si c'est les liens du masochisme, j'en sais rien. Mais voilà, transgresser, on est toujours en rapport à. On se situe par rapport à.
Et d'ailleurs dans la binarité, effectivement. Enfin, beaucoup plus quoi. Tandis que voilà, il y a la norme et puis il y a tout le reste. Alors après, faut créer. Oui, ça c'est. Difficile, mais...
Moi, je voulais revenir vite fait sur le binarisme et ce que vous disiez, justement, sur vous étiez d'accord pour la confusion, mais pas la réduction. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je suis aussi d'accord pour la démultiplication. Donc, pour moi, le binarisme, il est important d'être évoqué, il est important de l'évoquer, en tout cas, pour l'identifier, et qu'il ne s'agit pas d'une sorte de fantasme que de dire qu'il y a des oppresseurs, il y a des opprimés, et qu'on est victime, je pense qu'il y a des réalités d'un système politique qui est mis en place, des dispositifs qui sont réels, vraiment réels. Donc, pour moi, il est important d'évoquer le binarisme, et après, je pense que, Annie, je ne sais pas où tu es, là, tu voudrais peut-être expliquer le choix de transgression avec le couple norme.
Mais écoutez, moi, au départ, j'entendais quand j'ai fait, c'est pour ça que j'ai laissé au singulier, finalement. Oui, j'avais toujours tendance à vouloir mettre un S. Mais au moment où j'ai pensé le titre de cette façon, c'était de dire que de toute façon, les frontières étaient toujours en mouvement. Enfin, c'était en même temps provocateur, c'est-à-dire que cette espèce de transgression qui n'était pas du tout... qui veut pas dire anti-éthique, on tue tout le monde. Enfin, c'est pas ça. Je le prenais pas d'une façon assez violente, quoi. Pour moi, c'était pas une violence. C'était plutôt un moyen de dire que les choses, elles étaient toujours en mouvement et que ce qui, ce qui va être une norme beaucoup plus, je dirais, élastique. Parce que moi, j'aurais toujours envie de dire élastique. La norme, c'est quelque chose d'élastique qui finalement. Bon, bah, elle permet, etc., de... En fait, comment dire, on dirait, je ne sais pas, quelque chose qui bouffe et qui grossit. Enfin, c'est quelque chose qui... C'est phagocytant, quoi, en même temps. Il y a quelque chose de... Cette idée d'élastique, de grossir, de bouffer tout ce qu'il y a autour d'elle, qui est une espèce d'ingestion comme ça. Et c'était cette idée des frontières, moi, que j'avais envie d'entendre par la transgression, c'est qu'à un moment donné, c'est sans cesse en train de reculer, d'avancer, il y a un mouvement. Je l'entendais comme ça. Or, là, c'est vrai que je ne retrouvais plus mon bébé. Moi, j'ai dit, c'est intéressant parce que, bon, effectivement, j'aurais pu appeler ça, non, mais je ne sais pas quoi, on peut faire tout. Mais moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de frontières, que les choses n'étaient pas figées, comme tu as dit, quelque chose, c'est toujours en mouvement, et c'est ça qui m'intéressait. Et de dire, mais en même temps, j'entends aussi tout ce qui est dit en périphérie, on va dire, et qui est l'idée que, bon, la théorie, c'est bien, la pensée, c'est bien, mais nous, au quotidien, on subit au quotidien l'homophobie, on subit le regard de l'autre. Comme vous disiez, monsieur, les gens, il faut qu'ils vivent dans leur HLM, dans les immeubles, etc., en passant, enfin, tranquille, quoi, ils rasent les murs. Donc, c'est vrai qu'au quotidien, on a beau dire que ça va s'élargir, etc., mais ce que le désir de certains, le désir de certains, c'est aussi de ressembler à l'autre, perpétuer, copier-coller, de la même façon que les hétéros vivent, quoi. Est-ce que l'idéal, c'est de faire, l'avancée au niveau de la pensée des êtres, etc. C'est pas noir et blanc, c'est pas hétéro-homo. C'est peut-être d'autres choses qui sont, c'est pas du gris, quoi, qui émerge, c'est une autre couleur, quelque chose de nouveau, comme quelque chose de possible, si on peut pas prendre les rhizomes de Leuze, peut-être que c'est ça, c'est, tout d'un coup, ça se barre ailleurs, c'est autre chose. Et la tendance, en même temps, du norme, comme tu as dit, peut-être c'est certainement ça, mais en même temps, la norme, elle a toujours tendance aussi, effectivement, de rattraper ou de rejeter, à un moment donné, de son histoire, de son grossissement des tas d'individus effectivement qui ne sont pas gris, qui sont autre chose et qui effectivement, comme a dit monsieur tout à l'heure, ils sont en train effectivement de construire politiquement autre chose. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans aussi à travers le mot transgression, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui émerge et qui n'est pas forcément d'avoir un sous-mariage. Bon, bah, après, je sais pas, tout le monde est libre, hein, de revendiquer le Pax, il y a plein d'homos qui ne veulent pas se paxer. Parce qu'effectivement, ça, le mariage aussi, qu'est-ce que c'est que le mariage ? Donc, il y a une espèce d'interrogation même de la norme elle-même, et ce n'est pas d'avoir des choses forcément au rabais. Et peut-être qu'effectivement, c'est autre chose. Je ne sais pas, je n'ai pas de recette, je n'ai pas de solution. Il y a des choses qui sont en émergence, qu'on n'avait peut-être pas vues avant, qui ont, comment dire, le courage aujourd'hui, et je comprends aussi la révolte de certains, de se risquer dans l'espace public leur parole, et qui s'interrogent, et qui peut-être qu'on se trompe tous, j'en sais rien. Mais en même temps, je rejoins toi à ce moment-là, qui dit, non mais création. Et moi je sens autour de moi des gens qui sont en train de créer, effectivement, d'autres façons de faire que de revendiquer des ressemblances à ce qui est perpétué depuis des siècles. C'est tout. Donc, c'est une interrogation. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'effectivement, une émergence ? On est tous en train de se faire bluffer.
Voilà. Il y avait des questions. Merci, Annie. C'était James en premier. Et monsieur.
Je voulais revenir aussi sur le truc de binarité quand j'ai commencé à parler de la population dominante. Diminuante, c'est pas... dominante.
La pièce.
J'espère. Dominante qui crée des normes et les assoit. Et je maintiens, mais après, moi, je trouve pas, pour le coup, que ça s'insère dans une binarité comme on l'entend dans noir-blanc, homo-hétéro, homme-femme. Parce que, parce qu'il y a énormément de choses encore qui sont en jeu et qui se complexifient, parce que les systèmes se croisent, et comme disait monsieur, qu'il y avait des normes différentes dans différentes populations qui viennent d'origines différentes ou qui ont des cultures différentes, et donc les normes changent, et après, je ne suis pas claire. Et après, je crois que les normes, elles font... Et c'est là où je remercie madame pour le... Madame. Pour vous, les normes ne font pas loi. Et c'est là où je vois notre désaccord par rapport à ça. C'est que moi, je pense profondément que les normes, elles font loi. Qu'elles font loi, pas de manière législative, officielle, institutionnelle, effectivement, mais de manière beaucoup plus insinue. Qui est que il suffit de regarder les représentations, enfin des gens à la télé, ou même comment les gens se représentent dans la rue. Là pour le coup, je pense à normes de genre. C'est clair quoi. Les gens ils obéissent, ils suivent, et en grande majorité. Et les confrontations ou les mal-êtres qui peuvent se sentir par rapport à ça, les volontés de changement de sexe. Qui après se retourne à pas vouloir complètement rentrer de l'autre côté dans l'autre genre parce que c'est encore une norme. Mais alors où est-ce que je vais ? C'est super perturbant. Et ça pour moi c'est, pour moi la société dans laquelle je vis, elle fait loi. Et dans toutes les interactions avec les gens que j'ai, les gens ont besoin de savoir si je suis une femme ou si je suis un homme. C'est clair quoi. Et que je peux pas du tout vivre dans un autre espace. C'est illégal, ou je sais pas comment dire. Mais... Et aussi ce truc de transgression, c'est pour rejoindre Annie que moi j'allais partir sur ce truc de frontière et de dégager de la frontière, et que c'est marrant parce que le mot transgression, mais ça c'est sûrement une différence par rapport à ce qu'on a vécu dans nos vies et tout. Mais moi pour moi le mot quand j'entends transgression, c'est vraiment un déligotage justement. Justement, l'image complètement inverse que vous avez, en fait. À partir du moment où je me suis rendu compte que j'avais pas à obéir à ces codes, à ces règles de genre et tout, je me suis sentie super libérée parce que, je peux m'habiller la façon dont j'ai envie de m'habiller. Si j'ai envie de mettre une jupe avec une chemise large, je le fais. Je sais pas. Enfin, c'est bien de dire les lois, les normes, elles se mettent toujours en crise, et je suis d'accord, et c'est important. Mais après, c'est pas si facile de mettre les normes en crise. Et il y a des choses concrètes qui doivent se faire, et juste de le dire, mais ouais.
Y avait deux autres questions, et j'ai pas vraiment l'heure.
Il est 10h30.
Donc voilà, on va
encore deux trois questions et puis deux questions et
on va laisser peser.
Oui, sur deux choses. D'abord sur création, transgression. Je dirais que pour employer une formule qui fait chic maintenant dans les salons, je dirais que la transgression, ça peut être la création des conditions de possibilité de la création. On transgresse pour créer des conditions dans lesquelles la création est pour nous possible, alors que dans d'autres cas, enfin, peut-être d'autres pourraient sous d'autres conditions, mais nous, on ne peut pas. On a besoin d'ouvrir des espaces, et la transgression est un parmi les moyens qui nous permet de créer ces espaces de création. Donc, pour ça, il n'y a pas, moi, en tout cas, quand je l'ai dit, pour moi, il n'y a pas opposition entre transgression et création. C'est bien pour permettre de créer autre chose. C'est pas transgresser pour comme finalité. Voilà. D'autre part, sur le fait qu'il y ait deux niveaux de préoccupation, qu'on aurait deux niveaux de préoccupation, je pense que ce n'est pas du tout le cas. Je pense par contre que ça interroge quand même pas mal sur la capacité qu'a le langage à fonctionner comme norme. Parce que c'est peut-être simplement les termes qui ne conviennent pas. Par exemple, lorsque j'entends dire que il y a les normes et la norme, que la norme serait l'invariant, le processus régulateur invariant, un invariant anthropologique, et qui produirait des normes qui, elles, seraient historiques, etc., etc. C'est une manière de formaliser, de théoriser la chose qui est tout à fait respectable. Mais je pense que, peut-être pas dit avec ces mots-là, peut-être parce que c'est peut-être pas les mots qui conviendraient, mais qui, à mon avis, conviennent pas mieux que d'autres, dire que, énoncer que la norme est un invariant anthropologique régulateur des relations entre les êtres humains et que les autres ont des actualisations, on peut très bien dire, ah oui, non, mais ce que vous vous appelez, ce que vous vous énoncez, ce que vous vous fixez comme invariant est en fait l'idéologisation de toutes ces actualisations des normes, c'est une production idéologique que vous voulez placer au-dessus. Et d'ailleurs, ça, il y a quand même un certain nombre d'interrogations parce que le mécanisme intellectuel par lequel vous le faites, c'est celui d'invoquer un dispositif. Et alors là, ça veut dire que c'est invariant anthropologique, il faut le penser en termes de catégorie philosophique avec un objet que vous énoncez comme un dispositif. Et à ce moment-là, si on l'interroge sur le plan philosophique, quel est ce dispositif qui n'est disposé par personne, qui ne dispose rien, cet invariant, cette espèce d'élément suspendu, si on le pense avec comme catégorie le dispositif. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais au moins, je trouve que ça montre que, d'un côté comme de l'autre, il y a ce que les uns et les autres nous pensons être des injonctions, et que la frontière entre les injonctions et les catégories est précisément ce dont nous devons débattre pour nous placer au niveau de discours, pour placer nos préoccupations concrètes, et peut-être celles que vous exprimez, selon un mode de langage convenu, qui n'est peut-être pas le seul que nous pratiquons et que nous devons pratiquer.
Oui, par rapport à, bon, à ce que vous venez de dire, à ce qui a été dit avant, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même une réalité, c'est-à-dire qu'on est bien obligé à un moment de composer avec les normes. Et même si, bon, voilà, c'est une grosse banalité, mais ce qui veut dire aussi que il y a des moyens de faire passer un langage autre dans les normes qui sont celles qu'on emploie pour parler, par exemple. Il y a une manière de parler un autre langage dans sa langue. Et de la même manière, il y a une manière de contester politiquement une situation donnée en employant le langage de ceux qui nous oppriment. Et que tant qu'on manipulera pas ce langage-là, de toute manière, je vois pas comment on y arrivera. Et je veux dire, dans les exemples récents, on en a pas mal de ces exemples-là. Moi, c'est aussi comme ça que je pense qu'il faut que je voulais un peu être réservé sur la notion de transgression. Mais là, maintenant que ça devient juste une question de termes, bon, je suis d'accord pour dire, après tout, on peut entendre ce qu'on veut sous le mot de transgression, quoi. Bon, mais seulement, j'ai du mal à croire à effectivement une position d'extériorité sauvage par rapport aux normes ou de hors norme totale, parce que dans ces cas-là, je crois qu'on, au bout du compte, on se fait avoir, quoi. Tant qu'on n'arrive pas à parler un langage, à montrer à ceux à montrer aux oppresseurs, aux dominateurs, je ne sais pas comment on peut dire, que ceux qu'ils oppriment ont les moyens, ont les ressources, et peut-être plus qu'eux, de parler leur langage à eux, aussi bien qu'eux, autant qu'eux. Et je crois que ça ne veut pas dire à son tour devenir dominateur ou recréer de nouvelles normes, mais juste faire une démonstration, et je crois que c'est de l'ordre de la démonstration, quoi. Donc de quelque chose qui relève de certaines normes, faire la démonstration que le langage qu'on emploie pour nous dominer, nous pouvons nous-mêmes qui sommes dominés l'employer aussi bien, quoi. Et que je crois que cette démonstration est en elle-même émancipatrice, quoi. Et je crois que la notion de transgression, parfois, ou d'extériorité sauvage, c'était le terme de Foucault à une époque, ou des choses comme ça, une époque seulement, nous empêche de faire ça. Nous empêche d'avoir une visée émancipatrice, quoi. Et concrète, pour le coup. Et d'autre part, je ne crois pas que parler de théorie, ça soit moins concret que de parler de pratique, quoi. Ça, Bon, je crois que si on va par là, on passera à côté de tout. Je ne crois pas, en revanche, que ce qu'on puisse dire... Bon, moi, j'ai parlé de Deleuze ici, quoi, ou bon, de Canguilhem, ou d'analyse. Je ne crois pas que ça puisse être immédiatement calcable sur un processus politique. C'est-à-dire que, bon, c'est quand même des choses qui sont tout à fait différentes, quoi. Quand on fait de la philosophie, ou quand on fait, quand on pratique l'analyse, on ne fait pas, par là même, de la politique. Hein, je ne pense pas que ce soit la même chose. En revanche... Je pense qu'il peut y avoir des rapports entre ce qui se passe d'un côté dans une pratique de la philosophie et ce qui se passe d'un autre côté dans une pratique politique. Et que le rapport entre les deux peut être fécond. Mais à partir du moment où on dirait l'un et l'autre sont associés, c'est la même chose, alors là, je crois qu'on tombe dans la confusion.
Non, je ne crois pas qu'on ait dit qu'il fallait opposer théorie et pratique. Simplement, c'est effectivement... Qu'est-ce qui peut faire tout à l'heure, vous avez parlé de loi et de normes. Vous avez fait la distinction entre les deux choses, non? Que les normes, ce n'était pas la loi, non?
Non, c'était la question de la transgression qui était un rapport aux normes et non aux lois, à la loi et non aux normes. Et moi, je voulais juste venir, je pense que peut-être que là où on peut s'entendre pour finir la soirée, c'est qu'effectivement, dans le langage commun, la notion de transgression a... est porteuse quand même de cette aspiration à l'émancipation et donc à cette prise de risque, parce que moi je trouve effectivement bon, qu'on renvoie la subversion à la loi, il y a de toute façon à un moment donné, ou à la norme, il y a de toute façon à un moment donné, même dans les évolutions, même que ça soit individuel ou collectif, moi je suis issue du mouvement féministe et même et lesbien, je veux dire, c'est vrai qu'il y a eu des moments, des prises de risques individuelles et collectives pour essayer de justement s'inventer des normes. Même si après on a pu voir ressurgir d'autres normes, parce que tous les groupes se créent des normes, et qu'il y a, mais je veux dire, il y a un moment donné où quand même je vois entre ma mère et moi, ma mère elle m'a transmis en même temps tout ce qu'elle, elle était porteuse de ce que devait être une femme, et en même temps de tout ce qu'elle a été porteuse, de ce qu'elle pouvait pas devenir, parce qu'elle était dans les années 60, et qu'il y avait tout cet espoir aussi d'émancipation des femmes à ce moment-là dont elle était porteuse, et qu'à un moment donné, bon ben moi, il a fallu aussi que je prenne le risque d'être à côté de ça. Mais je veux dire, toutes ces prises de risque-là, il y a bien quelque chose de quand même de défier la loi. Parce que il y a la loi écrite. Bon, bah, si on avait eu un Sarkozy il y a 40 ans, moi, je suis désolée, mais à 3 ans, je faisais déjà la fugue de l'école maternelle. Donc, je veux dire, j'étais susceptible de... C'est-à-dire qu'on peut aussi... Tout dépend de l'époque où on est, du milieu social où on est, mais la loi, elle est... Il y a quand même cette prise de risque. Et cette prise de risque, est-ce que c'est pas ça, quand même, dans le langage commun, ce qui est compris comme subversion? C'est-à-dire cette tentative... Comment ?
Oui, donc je disais que subversion, ça me semble un terme plus juste, plus intéressant que transgression.
Ah oui, oui, c'est ça. Je suis pas fait
à subversion. Oui, c'est bien. Bon, pour moi, c'est bien plus ouvert, quoi.
On prend une dernière question, on arrête. Anne, tu es ici ? Ok. Bon, bah, on va peut-être aller tous se coucher. Moi, je vais aller me coucher. Je voulais juste vous rappeler que parallèlement à ce séminaire, il existait deux cycles de films organisés par Le Peuple qui manque. Sun in Your Head, vous avez toutes les informations sur les flyers qui sont un peu partout dans Paris et ici.
Sanignorhead et le cycle les écrans sociaux. Merci Annie. Les écrans sociaux au cinéma Georges Méliès. Je peux pas vous en dire davantage. J'ai oublié tous mes papiers. Donc voilà. Merci Annie.
Sur le programme à l'entrée. Bien, merci à vous. Et puis on va essayer de se trouver à travers ces séminaires un glossaire de vocabulaire qui nous permet de communiquer.